Faire la prédication, je tousse. Et donc, je voudrais m'excuser déjà pour cela. Que Dieu vous bénisse. On va prendre nos Bibles dans le livre de Marc, à partir du chapitre 5, verset 1. Vous y êtes, on peut commencer la lecture. Je l'ai déjà dit, donc merci à l'Église donc, qui me donne aussi la possibilité de partager la parole avec vous. Que Dieu bénisse donc les anciens et toute l'Église. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Alors, je lis la parole de Dieu. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu ses chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il. » Car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent. Entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita, des pentes escarpées dans la mer. Il en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuit et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, il s'est mis à supplier Jésus de quitter le territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie. Le titre du message, c'est Jésus le réparateur des brèches. Jésus le restaurateur des destins brisés. Autant que nous sommes, nous avons un destin sur la terre parce qu'on a un grand maître d'ouvrage. C'est Dieu qui établit toutes choses et qui ordonne toutes choses. Nous ne sommes pas nés par hasard et nous ne vivons pas par hasard. Nous avons un but à atteindre. Et souvent, il y a des situations qui viennent dans nos vies pour nous empêcher d'atteindre ce but-là. Gloire et louange soient rendues à Dieu qui intervient toujours pour réparer ce qui a réparé. Amen. Et dans la présidence tout à l'heure, Dominique parlait de l'humilité, du service. Et évidemment, cet évangile-là, vous savez qu'il y a quatre évangiles, le Marc présente Jésus comme le Fils de Dieu, mais comme un habile serviteur. Jésus, c'est le programme, quand il commence l'évangile, Jésus, le Fils de Dieu, qui est l'homme qui est venu sur la terre, donc, pour manifester Dieu aux hommes. Celui en qui Dieu s'est manifesté aux hommes, celui par qui Dieu s'est révélé aux hommes. Et c'est très, très important de savoir cela et de comprendre cela. Et donc, tout au travers de l'évangile, il présente Jésus comme le serviteur. Et dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons donc une grande victoire donc, qui a été gagnée par le Seigneur. Et je pense que il y a une semaine, toute la France était dans la joie. Je pense que vous êtes dans la joie ce matin. Même si c'est du football, c'est important de célébrer cela, que la France ait remporté la Coupe du Monde. C'était une grande victoire. Et je pense que c'est bon à dire. Une victoire. Et ici aussi, on parle de la victoire de Jésus sur les démons, et c'est très important. Et quand on lit ce texte-là, donc, on voit que Jésus, dans le chapitre précédent, il était avec ses disciples, il a enseigné les foules, et à un moment donné, il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Donc, ils ont pris la barque et ils sont partis, et pendant ce temps-là, pendant la traversée, il y a une tempête qui s'est manifestée. On a vu que Jésus a apaisé la tempête. Et après ça, donc, ils arrivent à l'autre bord, et l'autre bord, c'est dans la ville de Gadara. Ils arrivent, et la Bible nous explique que dès qu'ils sont arrivés, dès que Jésus est descendu de la barque, qu'il est arrivé sur la rive, il y a quelqu'un qui a commencé à se manifester. Et ce quelqu'un-là, c'est une personne qui, comme on le dit, vivait dans les sépulcres. Vous voyez, c'est parfois, on a, quand on lit les textes, quand on essaie de s'imprégner de ces tests-là, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose d'évident. Il vivait dans les cimetières. La Bible dit qu'il était violent. On n'arrivait pas à l'enchaîner. Et que même les fois où on l'enchaînait, il arrivait à briser les chaînes. Et on se rend compte que dans ce lieu-là, c'est lui qui était le maître, parce que certainement les gens ne venaient pas comme ça. Et dès que Jésus est arrivé, dès que Jésus descend de la barque, lui il se manifeste. Et en général, moi j'aime le sport, je parle un peu. Quand on parle de cet homme-là, on parle de ce qu'il est, on dit des choses qui sont effrayantes. Personne ne peut jamais le lier. Et vous avez déjà certainement assisté à un combat de boxe, des choses comme ça. Quand on vient, on parle des deux protagonistes. On dit par exemple. Je prends Mike Tyson, 24 combats, 25 victoires, enfin, bref, et on parle de l'autre. Mais là, on parle que du démoniaque, qu'il est violent, personne ne peut le lier, personne ne peut le vaincre. En tout cas, tous ceux qui venaient dans ce lieu-là se heurtaient à sa violence, au point où, certainement, ce lieu était inhabité. Et donc, dès qu'il arrive, dès que Jésus descend là-bas, il s'élève. Certainement, il va aller s'occuper de la personne qui arrive le déranger dans son territoire. Mais chose bizarre, là où on s'attendait à un combat qui allait vraiment certainement être spécial, dès que le démon, enfin le démoniaque l'a vu Jésus, il a couru. Si on ne connaît pas la suite, on se disait, voilà le combat qui va se passer. Mais non, que non. Qu'est-ce qui se passe? Le démoniaque se prosterne automatiquement. Parce qu'il a compris que cet homme qui venait là n'était pas un homme comme les autres. Il a compris que celui qui arrivait là n'était pas qu'un homme qu'on pouvait vaincre. La Bible parle de lui comme le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Devant qui? Ou à la mention du nom de qui, tout genou fléchit sous la terre, dans les lieux célestes. C'est de ce Jésus-là dont il s'agissait aujourd'hui. Et le démoniaque n'a plus que se prosterner. Quelle que soit la situation, quelle que soit la puissance que les hommes auront ou les démons auront, ils auront toujours la défaite devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi celui que nous adorons n'est pas un homme simple. Ce n'est pas une fable, c'est une puissance. C'est Dieu que nous adorons. Et ce Dieu-là continue d'agir dans nos vies. Et voilà une preuve encore. Parce qu'à un moment donné, à force de venir à l'église, on est chrétien depuis un certain temps. Il y a ce qu'on appelle la routine qui s'installe. Et on oublie que on est des enfants de Dieu
et qu'on a quelqu'un qui est Christ, qui est tout puissant, et qui marche avec nous, et qui est capable de changer le cours des choses. Même si, à un moment donné, on pense qu'on ne sait plus où va tourner la tête, qu'on pense qu'on est vaincu. Mais ce n'est pas une fable, c'est la vérité. Voici quelqu'un qui est démoniaque qui est venu. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé? Il s'est prosterné. Et il y a eu un échange maintenant. C'est eux les démons qui le suppliaient maintenant. Jésus, fils de Dieu, qui a-t-il entre nous? À la limite, qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est notre territoire ici. Tu n'aurais pas dû venir ici. Parce qu'on sait que si toi tu viens, on est en danger. Souvent on est chrétien et c'est nous qui avons peur. Alors que on a celui qui est en nous, qui est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Et qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu n'as pas le droit d'être ici. C'est notre territoire. Le temps vient où tu vas sceller notre sort. Mais pour l'instant, on peut encore travailler. On peut encore malmener les hommes. On peut encore tourmenter les hommes. Donc laisse-nous faire. Et Jésus le reprit sévèrement. Et lui demanda son nom. Légion. Dans la mer, à l'époque, Légion, c'est 6000 personnes. Donc 6000 démons dans la vie, dans le corps d'un homme qui le tourmente. Et les gens, à la limite, ne s'en offusquaient pas. Certainement, le monsieur, il n'avait plus de famille, ça c'est sûr. Mais il vivait dans les cimetières. Et quand on veut tirer de l'enseignement donc, de ce test-là, la première chose que je voulais qu'on puisse voir, c'est le tableau de la vie de cet homme. Qu'on puisse s'attarder un peu dessus. Un tableau qui est sombre, qui est triste. Quelqu'un qui vit dans les sépulcres, les cimetières. Le cimetière, c'est le lieu où résident les morts. Mais lui, il vit là-bas. En plus, il est fou, il est démoniaque. C'est-à-dire qu'à la limite, son sort était scellé, cet homme. Son destin est brisé. Qu'est-ce qui était la cause de ça? On ne le dit pas dans le texte. Mais quelqu'un qui vit dans les sépulcres et qui est possédé de 6000 démons, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Si ce n'est peut-être après la mort. Mais cette personne avait certainement un destin. Il avait une destinée. Il avait un rôle. Il avait quelque chose à faire sur cette terre-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais voilà, il n'était plus avec une femme, certainement. Il n'avait plus ses enfants, même s'il avait eu des enfants. La Bible ne nous mentionne pas cela, mais il n'avait plus ses enfants. Il n'avait plus une maison où dormir. Son seul lieu pour dormir, c'était que dans le cimetière. Il n'avait plus d'amis. Un tableau sombre dans tous les aspects, dans toutes les dimensions. Parfois, en tant qu'être humain, on peut avoir un seul tableau sombre dans notre vie. Ça peut être un mariage qui ne marche plus. Ça peut être une situation au travail qui devient très, très difficile ou au point où on perd le travail. Ça peut être une maladie qu'on a dans le corps qui nous fatigue. Il y a une seule page du tableau. Mais lui, c'est tout le tableau qui était sombre. Triste. Quelqu'un m'a demandé un jour, mais qu'est-ce qu'il a fait de plus que nous, on ne sait pas. Mais voilà le tableau de sa vie. Comme si on a mis, comme on dit, un point final. La vie de cet homme était scellée. Deuxième élément qu'on peut voir encore dans ce test-là, c'est l'activité des démons. Ici, je ne veux pas trop en parler, hein, ce n'est pas le véritable sujet, mais le problème que cet homme avait, ce n'était pas une maladie, on va dire une dépression simple, on suppose. Hein. La Bible dit qu'il était possédé par des démons. En gros, on le dit, un chrétien ne peut pas être possédé de démons. Il y a beaucoup de... spéculation dessus parfois, mais on voit cet homme-là qui était possédé par les démons. Il y avait des démons en lui, 6000 démons. Et on voit l'attitude des démons. Tout le monde sait que le chef des démons, c'est Satan. Et une des plus grosses arnaques que le diable a réalisées, le diable c'est Satan, c'est de faire croire aux hommes qu'ils n'existent pas. Et ça, il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils n'existent pas. Et les gens vivent avec ça, ils sont contents. Ouais, non, c'est des fables, tout. Le diable existe. Et il est organisé. Il a une hiérarchie avec lui, il y a des démons, il y a des principautés. Ce n'est pas le sujet de la prédication aujourd'hui, mais le diable existe. Il existe. Et il fait croire aux gens qu'il n'existe pas. Et tant qu'on ne veut pas avoir affaire à lui, on fait comme... Non, il existe. Et on voit l'activité des démons. Comment des démons peuvent gâcher la vie d'un homme? Et parfois, ça va être un peu dur ce que je dis, mais parfois... On pourrait détailler le tableau des, comment on dit, le gouvernement de Satan, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Parfois, notre vie aussi peut être brisée par des personnes qu'on aime, qui deviennent comme des démons. Ça peut être un mari qui brise la vie. Ça peut être un ami, un frère, qu'on considérait qui pose un acte, qui détruit notre vie. Une activité, une trahison qui détruit la vie. Et c'est comparable à ce que le démon a fait. Mais parfois, tu es face à une situation où tu as un ami ou un frère, ou, je ne sais pas, qui vient, qui pose un acte, qui va mentir sur toi, par exemple, dans ta société où tu travailles, ou dans le lieu où tu travailles, qui fait un complot contre toi. Et ces choses-là ont pour conséquence, par exemple, la perte de ton boulot. Oh, tu étais, dans un projet, par exemple, immobilier ou autre, et tout bascule dans ta vie. Parfois, il y a des situations comme ça qui arrivent. Ou des hommes, mais s'apparentent à des démons pour détruire nos vies. Et ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Troisième élément que je voulais que l'on puisse voir aussi, c'est la réaction des bergers et de la population, enfin des personnes qui étaient dans la ville, qui étaient dans la région. Parfois, tu as l'impression que, c'est pas ici, mais dans la vie courante, que il y a des hommes qui se réjouissent du malheur des autres. Parce que dès qu'ils sont arrivés, quand on leur a dit ce que Jésus a fait, ils supplient Jésus de partir de leur ville, de leur région. Non, vraiment, il faut que tu dégages de là. Reste ce que tu as fait là. C'est à croire que le miracle que Jésus a fait les a éloignés de Dieu au lieu de les pousser à l'adoration. Parfois, il y a des choses que nous demandons à Dieu ne nous donne pas. Parce qu'il sait que ce qu'il nous donne, ça peut nous éloigner de lui. C'est difficile, mais c'est comme ça. Voici des personnes que Dieu est venu, ou à qui Dieu est venu se manifester. Un miracle authentique. Et là, Jésus venait de Capernaum, où, par incrédulité, les gens, même après, il allait à Nazareth, où, à cause que les gens le connaissaient, c'est le fils de... Ah, c'est pas le fils du charpentier, là. Oui, c'est lui. À cause de la familiarité qu'ils avaient avec lui, il n'a pas pu faire des miracles là-bas. Mais là, Jésus vient faire un grand miracle. Un miracle extraordinaire. Délivrer quelqu'un qui est possédé de 6000 démons. Et normalement, ces personnes-là devaient être heureuses de voir ce que le Christ avait fait. Mais non. On le supplie de partir. On lui demande de quitter là-bas. Bon. En plus, les bergers, eux, quelqu'un me dira, mais il a détruit leur affaire, leur chiffre d'affaires. Puisqu'ils avaient quoi, 2000 pauvres, hein, et ils sont tous tombés dans l'eau. Mais c'est là où on se pose la question de savoir qui de l'homme et de l'animal est plus important. Ma foi, il y en a qui s'émeuvent quand on fait du mal à un chien, et à qui ça ne dit rien de voir un homme périr. C'est là aussi la violente question, où on voit que la Bible est d'actualité, tout le temps.
Il y en a qui accordent plus d'importance à un chat qu'à un homme. À l'époque, les porcs étaient considérés comme des animaux impurs dans lesquels les démons aimaient s'incruster parce que les démons, quand ils viennent sur la terre, ils veulent rentrer dans les hommes. Et là, ils ont supplié qu'on les jette dans les fossés. Eux, ils viennent, ils sont énervés. Mais pourquoi tu nous fais ça? Parfois, on se pose des questions. Hein? On a mené à se faire des réflexions. Qu'est-ce qui est important? Comme le cas des Bartimée, à qui Dieu a permis qu'il, Jésus a permis qu'il le couvre la vue. Et les gens s'interrogent. Pourquoi tu fais ça? Ou à cette dame qui avait la main infime le jour du sabbat. Mais pourquoi tu fais ça le jour du sabbat? Qu'est-ce qui est important finalement en tant qu'homme, en tant qu'enfant de Dieu pour nous? Voir que les gens soient heureux, voir que les gens soient délivrés, voir que les gens soient épanouis. Et c'est malheureusement comme ça que les hommes sont, pas les chrétiens en gros, mais je le dis de façon générale, les hommes. Ils accordent de l'importance à des choses au détriment de l'homme. Or, l'homme est le sceau de la création de Dieu. Si lui-même, on l'appelle le fils de l'homme, ce n'est pas pour rien. Dieu a tellement aimé l'homme que lui-même, en tant que Dieu, est venu donner sa vie pour qu'on soit sauvé. Et c'est une aussi des colères de Satan de voir la place que Dieu a accordée à l'homme dans son projet éternel. Alléluia. Donc, on voit ici que parfois, les hommes ont certaines réactions qu'on doit corriger. Et le dernier élément dont je voulais parler un peu, c'est Jésus. Il n'a point changé. Dans son programme, certainement ce jour-là, l'importe, enfin, il ne devait certainement pas s'occuper de cet homme-là, parce qu'il allait. Mais Jésus est Dieu. C'est pourquoi peut-être tu vis une situation où tu penses que ton sort est scellé, où tu penses qu'on ne peut plus rien faire, où tu as prié plusieurs fois, tu n'as pas eu de résultat. Et tu as peut-être pensé que le Seigneur a occulté ta prière. Mais que nenni, Dieu agira au temps opportun. Cet homme l'avait duré certainement là-bas. Et comme je dis, son sort était scellé. Mais celui qu'on appelle le réparateur des brèches agit toujours au moment où il faut. Dieu peut venir tard dans ta vie, mais ce n'est pas un retard. Il arrive au moment opportun. Il choisit le temps qu'il faut. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dans la suite du texte, on voit qu'il a guéri la fille de Jairus. Il a guéri la femme qui a la peine de sang depuis 12 ans. Et on voit les deux dimensions du temps. Le temps chronos, la durée et l'instant T, le temps kairos. On voit ces deux dimensions-là pour dire, encore confirmer que Jésus est le maître du temps. Ceux qui avaient pensé que, peut-être, je ne sais pas, parce qu'en Afrique, parfois, c'est des choses qui se font. Hein. Ils ont jeté un sort peut-être à cet homme-là, et c'est ça qui était la base de leur succès commercial. Ça s'est fait, parfois. Mais ils n'avaient pas pensé que ce jour-là, Jésus viendrait là-bas. Et que ça allait finir comme ça. Parce qu'on ne sait pas toujours quand il vient. Mais il vient toujours à point nommé. Alléluia. C'est pour ça qu'on appelle l'étoile brillante du matin. On l'appelle le Seigneur des Seigneurs. Ce n'est pas une fable. Aujourd'hui, on a l'impression qu'à un moment donné, on s'est tellement familiarisé à Jésus qu'il y a des choses auxquelles on ne croit plus. Il y en a même qui ne croient même plus aux miracles. Mais les miracles sont toujours d'actualité. Alléluia. Il est toujours capable de le faire. Mais ça dépend de où on place notre foi. Ça dépend de ce en quoi on s'attend. Parce que le monde œuvre à nous éloigner du Seigneur. À nous donner des priorités qui n'ont rien à voir avec celles que le Seigneur a définies pour nous, a établies pour nous. C'est à nous de travailler à restaurer notre relation avec le Seigneur. Parce que la foi est comme une force qui nous pousse. à obtenir des choses qu'on ne voit même pas encore. Mais c'est à nous de travailler à cela. Et ces exemples-là nous prouvent que ce qu'il a fait pour ce démoniaque, il est encore capable de le faire pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas quel tableau de ta vie qui est sombre. Je ne sais pas quel aspect de ta vie que tu veux voir changer. Je veux simplement te dire qu'aujourd'hui, ce que Christ a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui encore. Que ce n'est pas une fable, Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est vivant au siècle des siècles. Il est le Seigneur de la vie. Il est au-delà des temps et des circonstances. Il est au-delà de la matière. Les philosophes définissent trois dimensions, la matière, le temps et l'espace. Jésus est celui qu'on appelle la quatrième dimension. Il est au-delà de ça, il opère au-delà de ça. Puisque le miracle se met au-delà de ces trois dimensions-là. Jésus est au-delà de l'espace. Il est au-delà du temps, il est au-delà de la matière. C'est pour ça qu'il est capable de faire ce genre de miracle-là. Il le fait aujourd'hui. Et ce qui fait plaisir, c'est que la Bible nous raconte que cet homme qui dormait dans le sépulcre, qui dormait donc dans le cimetière, on le voit après aller annoncer l'évangile dans la décapole, donc dans au moins 10 villes. Voyez la destinée glorieuse qu'avait cet homme-là qui était caché là. Voyez la destinée glorieuse, aller annoncer l'évangile, parce qu'il nous revient aujourd'hui d'aller parler de Jésus, d'aller dire partout où le canon nous est donné, ce que le Christ a fait pour nous. Et c'est ce que cet homme est allé faire dans 10 villes, alors qu'il était confiné dans un territoire, entre les dormis, entre les tombeaux. Il a été délivré et il est rentré, on va dire, certainement pleinement dans son ministère, celui d'aller annoncer l'évangile. C'était un évangéliste puissant qui était là, quelqu'un dont Dieu devait se servir. Aujourd'hui, on a des jeunes frères, des jeunes enfants qui vont annoncer l'évangile au Congo.
Ça, je ris un peu parce que ceux qui sont jamais sortis, peut-être qui sont jamais en Afrique, peuvent pas imaginer ce que c'est que le Congo aujourd'hui. Je suis pas fier de le dire en tant qu'Africain, mais quand vous voyez le risque que prennent ces jeunes enfants là, aller là-bas là, on ne peut que saluer l'appel de Dieu qui est sur la vie de ces personnes là. Et la grâce de Dieu qui accompagne ces enfants-là, d'aller annoncer, d'aller faire un travail de Dieu dans ces villes-là. Parce que des zones où il n'y a que la guerre, c'est vraiment difficile. Hein. Surtout ces zones-là, ce n'est pas évident du tout. On prie Dieu que ça change. Et c'est encourageant de voir ces gens-là partir faire ce genre de choses-là. Et voilà la vie que devait mener cet homme-là. Se déplacer, aller de ville en ville. Pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Qu'il y a un salut pour nous. Que Christ est venu sur terre pour sauver l'humanité. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est qu'on ait foi en lui. Voici une destinée retrouvée. C'est honorable, ça fait plaisir de voir. La vie de cet homme a été changée. Jésus est celui qui change la vie. Il est encore capable de changer ta vie. Alléluia. Et il y a une chose qui est importante et que nous devons comprendre, c'est le poids de l'expérience. Dieu utilise l'expérience comme un outil didactique, un outil pédagogique. Et parfois, dans l'expérience, il y a la souffrance. Si tu n'as jamais connu la souffrance dans ta vie et qu'il se trouve qu'un jour tu es face à un certain moment de souffrance, tu vas certainement penser que Dieu t'as oublié. Mais la Bible dit dans le livre d'Hébreux, sur Hébreux 5, par là, que bien qu'étant fils, et là on parle de Jésus, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Mais comment Dieu lui-même se permet de venir sur terre, la forme humaine, pour comprendre la vie des hommes? Mais c'est facile de juger les autres. C'est facile de parler d'une personne quand on n'est pas dans la même situation que cette personne-là. Mais quand à un moment, tu vis la situation de cette personne. On dit, maintenant, gloire soit rendue à Dieu, on a un avocat auprès du Père. Comme lui-même, il a été fait homme, il sait ce qu'on a rendu sur ce Père-là. Il peut nous défendre. C'est pour ça que Dieu permet le poids de l'espérance dans nos vies. Donc, si tu n'as pas encore une espérance douloureuse, je ne te maudis pas. Hein? Mais je vais te dire que
Tu n'as pas encore commencé. C'est pourquoi Dieu t'a amené sur terre. Parce que tu es là pour apprendre quelque chose. Tu es là pour servir à quelque chose. Tu es là pour un but. Tu as été créé pour un but. Et tu vas atteindre ce but-là par la grâce de Dieu. Alléluia. Chacun est venu sur la terre pour accomplir une mission. Parce qu'on a quelqu'un qui a tout établi dans son omniscience. Il sait tout, il peut tout. Il a un projet de vie pour chacun de nous. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est l'obéissance et la soumission pour atteindre ce but-là. Lui, il errait dans le... Il ne savait pas.
Et quand Jésus est arrivé, il lui a dit... Il lui a montré ce pourquoi il était venu sur la terre. Tu n'es pas venu pour souffrir là. Ça, non, tu es venu pour annoncer l'évangile.
Lève-toi, va. Tu vas souffrir en annonçant l'évangile, ben, tu vas partir parler à certaines personnes, elles ne vont même pas te croire. Tu as tout le point, tu vois. Mais c'est ça. Et à cause de lui, certainement, beaucoup de personnes sont venues au Seigneur. Alléluia. Le poids de l'expérience dans nos vies. Dieu utilise l'expérience pour nous former. Et cette expérience-là contribue à nous élever.
Parce que la finalité de toute chose, parfois on l'oublie, c'est que toute chose soit soumise à Christ et que nous puissions ressembler à Christ. C'est ça. On est un modèle de vie. On est un modèle parfait. Et tout le temps qu'on peut passer sur terre-là, c'est pour ressembler à Christ. Dieu permet les joies, permet les bons moments. Mais n'oublions pas, le but final, c'est que Dieu a un plan merveilleux. Et ce plan-là, nous devons nous y incruster.
Et il intervient toujours au moment où il faut pour redresser ce qui doit être tordu, ce qui était tordu. L'étoile brillante du matin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est la résurrection et la vie. Il est venu. On dit Lazare est mort, il est arrivé.
Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Il dit,
depuis, ça fait un moment, je te parle, on dirait, tu ne comprends pas. Tu sais, depuis, je t'ai parlé, tu ne comprends pas. Elle dit, mais comment ça, Seigneur? Je suis la résurrection et la vie. Alléluia.
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Alléluia. Tu ne comprends pas ça?
Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Que tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on a enterré, ressorte au nom de Jésus. Amen. Dans vos pays, il y a un vieux qui... Un monsieur, excusez-moi d'avoir dit le mot vieux, je vais dire, un monsieur,
il a peut-être 100 ans. Il a vécu peut-être 90 ans. Parce qu'on va faire le mieux que les clés, le seul fait. Il a vécu juste parce qu'on va voir. Et c'est à 90, c'est pas qu'il a eu l'âge tellement. C'est à 97 ans qu'il a été révélé à Côte d'Ivoire. C'est que la Côte d'Ivoire de l'émission. Et il est venu tard, à 97 ans.
Et il sait comment il vient de mon pays. 97 ans.
Ça fait le vieux Bélé qui l'a pas, il va toujours le connaître. J'ai vu ça, il a fait un petit musical à ça.
C'est Dieu qui rétablit les choses. Alléluia. Il est capable de le faire. Il dit, si tu crois en moi, même si tu meurs, tu vivras. Et je vais donc terminer là et nous encourager ce matin à continuer à avoir confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que nous avons choisi la bonne part, que vous avez choisi la bonne part, et que même si le monde veut nous faire croire autre chose, et même si la science a évolué encore, et c'est une bonne chose, parce qu'il y a des scientifiques même qui reconnaissent l'existence de Jésus, notre Dieu est vivant au siècle des siècles. Et il nous entend, il nous voit. Il est au contact de nous chaque jour. Malheureusement, nous, à cause des vicissitudes de la vie, on arrive à un moment donné où on n'arrive plus à décrypter sa présence. On n'arrive plus à sentir sa présence. On n'arrive plus à considérer sa présence. Et celui qu'on appelle le moniteur silencieux, c'est-à-dire le Saint-Esprit, à un moment donné, quand il te parle, tu fais... Tais-toi. tais-toi. À un moment donné, il ne parle plus. Et tu as l'impression qu'il ne...
il n'existe pas. Oh, il est là.
À nous. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur.
Seigneur, tu es vivant au siècle des siècles. Et au travers de ce passage que nous venons de lire, on nous a fait comprendre que tu es Dieu. Et que, quelle que soit la situation de notre vie, tu es capable, Seigneur, de la restaurer. Ce démoniaque avait son sort scellé par les hommes. Mais là où les hommes sont incapables, toi tu es capable. Et tu es arrivé dans la vie de cet homme, tu as restauré sa vie. Je te prie, Seigneur, dans ta grâce et ta miséricorde, de te souvenir de nous et de conduire chacun dans sa destinée au nom de Jésus et de restaurer ce qui est à restaurer. Que la gloire te revienne, l'honneur, l'élévation, le règne, la puissance. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.